Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue à Radio Créum. Éthique en série avec Martin Winkler et Daniel Weinstock.
C'est posé la dernière fois, on a parlé un peu de manière un peu superficielle de nos réactions spontanées aux émissions comiques qui tournent autour de l'humiliation de certains de leurs personnages, et on s'est demandé pourquoi moi ça me faisait rire vraiment beaucoup quand c'était bien fait, quand c'est fait avec esprit, comme je pense que Seinfeld et Curb Your Enthusiasm le sont, et pourquoi Marc réagit tout à fait différemment. Et Marc a lancé une idée à la fin qui, je crois, nous met sur une piste intéressante. Curb Your Enthusiasm met en scène un type qui est d'abord fortuné. Hein, Larry David, c'est Larry David incarne Larry David. Larry David incarne un personnage qui aurait fait fortune massive en ayant écrit une série très populaire pendant plusieurs années qui s'appelle Seinfeld. Mmh. Donc, il y a quelque chose d'autobiographique tout à fait transparent. Donc, Larry David est un type dont on ne peut avoir pitié de Larry David. C'est un type qui vit dans un mansion de Beverly Hills absolument formidable, qui a plein d'argent, qui a des amis célébrités, Ted Danson, etc. Donc, peut-être qu'une des choses qui fait de sorte qu'on peut se permettre de rire de l'humiliation que subit Larry David d'émission en émission, c'est le fait qu'on rit d'un type qui n'est pas un sans-abri, un sans-domicile fixe que l'on rencontre dans le métro, mais qui est un type très fortuné. Donc, une manière de domestiquer notre émotion, c'est de faire de sorte qu'elle soit incarnée chez un personnage qui est autrement fortuné. L'autre chose qu'il faut dire, et que tu as dite à la fin de l'autre émission, que je pense, trouve très intéressante, c'est que, comme George, donc son alter ego dans Seinfeld, Larry David est un type qui est à la fois impuissant, c'est-à-dire qu'il lui arrive parfois d'être pris pour un imbécile alors que lui ne voit pas pourquoi on le prend pour un imbécile, le monde se tourne contre lui alors qu'il ne comprend pas, mais en même temps quelqu'un de très arrogant. Quelqu'un très arrogant, quelqu'un qui peut dans un café faire une scène pas possible pour quelque chose de complètement ridicule. Alors autre chose qui fait qu'on peut se sentir en quelque sorte à l'abri de notre propre jugement moral de nous-mêmes lorsque l'on rigole de l'humiliation d'un George ou d'un Larry David, c'est que c'est un type qui est, par ailleurs, parfois très désagréable. Il est désagréable d'une manière que moi, parfois, je voudrais pouvoir parfois être désagréable. Mmh. Il se permet de dire des choses dans des interactions de tous les jours qui, je dois l'avouer, me sont passées par la tête, mais que mon surmoi ont censuré. Pas toujours, mais la plupart du temps, censuré. Donc, il y a quelque chose de, je ne sais pas si c'est voulu, mais le fait que l'on puisse se permettre d'explorer cette émotion douloureuse, difficile, compliquée qu'est notre réaction à l'humiliation, est en quelque sorte domestiquée et rendue moralement peut-être moins problématique qu'elle aurait pu l'être du fait qu'on a affaire à un personnage qui est fortuné et un personnage qui est souvent désagréable et qui parfois mérite l'opprobre moral qui tombe sur lui.
Tu vois, je ne m'étais jamais posé la question de savoir si... Les personnages de Seinfeld ou les personnages de la série de Larry David étaient moralement acceptables ou inacceptables, parce que, à mon sens, mais c'est intéressant que tu soulèves la question, à mon sens, dans la fiction, il n'y a pas de morale. Je veux dire, en tout cas, un texte en lui-même n'est ni moral ni amoral. Pour donner un exemple qui est très loin de ça, je me refuse absolument à lire les livres de Louis-Ferdinand Céline parce que je pense que c'était une crapule. Mais je ne porterai pas de jugement sur ces livres. C'est-à-dire, je ne dirai pas « ce sont des livres amoraux ». Je pense que la personne était amorale ou avait une personnalité que je n'aurais pas voulu toucher avec des pincettes. Mais je ne dirai jamais, par exemple, que ces livres sont amoraux parce que, finalement, c'est le spectateur qui fait ce qu'il y a dans le livre. Oui. C'est le lecteur. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire que, par exemple, il ne me viendrait pas à l'idée de dire « ah oui, mais tu es un adepte de l'humiliation imposée parce que tu aimes Seinfeld. Tu vois ce que je veux dire?
Oui.
C'est-à-dire que je pense qu'on peut effectivement en tant que spectateur ou en tant que lecteur, trouver à l'intérieur de quelque chose qui se présente comme étant très discutable sur le plan des relations humaines, si c'est une illustration des relations humaines, on peut y trouver quelque chose d'intéressant, de la même manière que moi, par exemple, je trouve House absolument génial, je voudrais pouvoir parler comme House, alors que je sais que c'est parfaitement contraire à l'éthique, la plupart des choses qu'il dit et la manière dont il les dit sont parfaitement contraires à l'éthique, mais je voudrais de temps en temps avoir été capable de parler comme lui.
Alors les créateurs de Seinfeld avaient une intention que l'on pourrait caractériser d'amorale lorsqu'ils ont créé l'émission. Il y a un slogan, semblerait-il, qui était que Larry David et Jerry Seinfeld avaient au-dessus du bureau où ils écrivaient les scènes, où il était écrit, je pense que c'est exactement verbatim, « No hugging, no learning, no growing hein ». Et qu'est-ce qu'ils avaient en vue là-dedans? Ce sont ces séries américaines, et pas seulement américaines, où il y a de la comédie, mais au bout de 28 minutes, il y a toujours une leçon morale qui est tirée par un personnage. Les personnages grandissent, les personnages s'embrassent pour se réconcilier. Il y a quelque chose de très convenu, de très facile dans la manière par laquelle certaines séries de télévision qui sont de facture comique finissent sur un ton un peu larmoyant, un peu... disons, heartwarming, hein, pour utiliser cette horrible expression anglaise, et sur un ton dont tout le monde a appris quelque chose. Alors, eux, ce qu'ils voulaient, c'est des personnages qui n'allaient pas apprendre, qui n'allaient pas grandir, et qui n'allaient surtout pas s'embrasser.
Oui.
No hugging. Oui. Et est-ce qu'ils ont tenu pendant 9 ans ou 10 ans que Seinfeld a duré le coup? Je ne suis pas sûr, il y a peut-être eu vers la fin, surtout quand Larry David a abandonné l'émission, des moments où les personnages se sont un peu adoucis. Et Curb Your Enthusiasm, par contre, a repris ce slogan avec une sorte de fanatisme extrême. Larry David ne grandira jamais, n'apprendra jamais. Et alors, il y a peut-être dans cette émission une volonté, une velléité des scénaristes qui est peut-être explicitement, non pas amorale, mais contraire à la vision un peu facilement moralisante qui ressort de trop de séries comiques américaines et qui en font, à mon sens, des trucs qui sont à peu près jamais drôles.
Oui, je vois ce que tu veux dire. Je m'interroge quand même, bon alors là c'est un procès d'intention, hein. Je m'interroge quand même sur les objectifs artistiques de type, comment dirais-je, contestataire d'une série comme Curb Your Enthusiasm. Je veux dire, c'est pas que je pense qu'on peut pas faire de la satire, on peut faire de la satire autour des gens très riches, mais là, la dimension par exemple satirique ou la dimension critique m'échappe un peu. C'est-à-dire que ça relève tellement du procédé un peu systématique, et puis ça tourne toujours autour du même personnage, c'est-à-dire que c'est ça aussi peut-être qui me gêne un peu dans Curb Your Enthusiasm, c'est que ça tourne toujours autour de l'humiliation de ce personnage-là ou des situations d'humiliation dans lesquelles il met les autres. Tandis que dans Seinfeld, c'était un peu réparti quand même. Je veux dire, ça passait de l'un à l'autre, donc il y avait une certaine variation, une certaine variété. Alors que Larry David, c'est vraiment une sorte de monomanie. Et du coup, ça me fait pas rire, mais du coup, hier et avant-hier, quand j'en ai regardé 2 ou 3, de cette saison-là, je me suis mis à le regarder de manière presque, comment dirais-je, clinique, en me disant, mais qu'est-ce qui peut pousser un type comme ça, qui a indéniablement du talent de raconter des histoires et d'inventer des situations qui sont des situations... je crois qu'il faut avoir un talent pour trouver justement ces situations et les mettre en scène, ça c'est pas douteux. Mais qu'est-ce qui peut pousser un type comme ça à faire ça pendant des années? Sur le plan strictement, voilà, c'est comme une monomanie. Enfin, et aussi, par la même occasion, qu'est-ce qui peut pousser les gens à regarder ça de façon systématique? C'est moins contraignant que Seinfeld parce qu'il y a quoi, 13 épisodes par an, donc il y en a moins, mais de manière systématique. Parce que tout de même... L'intérêt des séries en général, c'est qu'il y a une certaine évolution. Et dans tout travail dramatique, d'écriture dramatique, il y a forcément une évolution, qui n'est peut-être pas forcément l'évolution des personnages, mais en tout cas, l'évolution de l'écriture et de la manière de raconter. Et ce que j'aimerais savoir, c'est quelle évolution tu as vue, même si le personnage ne change pas, quelle évolution tu as vue au cours de cette série?
Alors, il faut savoir que Larry David, quand il a fait la première saison de Curb Your Enthusiasm, voulait se faire plaisir. avait dit dans des entrevues qu'il y avait des choses qu'il n'avait pas pu faire avec le network NBC dans Seinfeld, que HBO lui permettrait de faire. Donc il avait l'intention de faire 13 épisodes. Son idée était que les fanatiques de Seinfeld la regarderaient peut-être, mais que ça n'aurait pas de suite. Ça a été un succès, il en a fait une deuxième et une troisième saison. Cette saison n'existe, la saison actuelle, celle que l'on vit, n'existe que parce que, et alors je ne sais pas si les auditeurs le savent, mais si ce n'est pas le cas, c'est un scoop pour eux, que parce que cette année, donc à la fin de l'année, nous allons avoir la réunion Seinfeld tant espérée par les spectateurs de Seinfeld. L'intrigue des 13 épisodes de cette année tourne autour de l'idée que, que Larry David, pour se remettre avec son ex-femme, elle veut avoir un rôle dans une émission qu'il écrirait et qui réunirait les quatre personnages de Seinfeld. Donc, par exemple, elle pourrait devenir la nouvelle copine, la nouvelle petite amie de Jerry. Alors, au deuxième épisode ou troisième épisode de la saison, on voit les quatre apparaître, pas ensemble, mais les uns après les autres, acceptant à tour de rôle de faire partie donc, de l'émission spéciale.
Il y a deux. Alors, ça, j'aime beaucoup parce que c'est le côté métatextuel et, je veux dire, intertextuel et métatextuel. Il y a deux scènes dans lesquelles il imagine qu'il les fait jouer dans les décors de Seinfeld. Voilà. Alors, il paraît que c'était très émouvant. Moi, j'ai lu des trucs là-dessus, sur le fait qu'ils avaient ressorti les décors de Seinfeld, qui n'ont pas été détruits, ce qui est tout à fait exceptionnel, parce qu'en général, quand une série est terminée, on démolit les décors et on les recycle.
Avec le même vélo accroché au mur.
Avec le même vélo accroché au mur, le même canapé, etc. Et que ça, moi, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Et je dois dire que ça m'intéresse de voir ce qu'il fait comme commentaire a posteriori, effectivement, sur sa série.
Par contre, je dois dire, et je pense que c'est peut-être donc à tout prendre une erreur que d'avoir fait 6 saisons plutôt que simplement une saison ou deux, on commence à voir les mécanismes.
Hein. Oui.
On commence à voir les mécanismes. Quelle est la bête sacrée? Hein. Quel est le truc dont on ne peut pas rire, dont je vais rire? Alors cette saison, on est à 5 épisodes, on a déjà eu le cancer. Le dernier épisode, qui était par ailleurs assez drôle, c'était les personnes en fauteuil roulant. Mmh. Ils draguent une femme dans un café, alors qu'ils sont tous les deux assis à prendre leur café. Elle accepte de sortir avec lui.
Et il se rend compte
qu'elle est en chaise roulante. Bon, et tout le reste. Il y a des scènes qui sont par ailleurs assez... une scène où ils essayent d'avoir
Je pense que je vais détester cet épisode. Je ne l'ai pas vu, mais je pense que je vais détester ça.
Ce n'est pas un personnage qui tourne sur l'humiliation de la personne en chaise roulante, mais qui, encore une fois...
Non, mais qui tourne probablement autour de sa gêne par rapport à ça.
De sa gêne par rapport à ça, voilà, oui. De son incapacité, notamment... je ne veux pas rentrer dans le détail. Les gens la verront peut-être à la télévision quand elle repassera. Mais on sent un peu le type qui se dit, bon, j'ai fait, dans les 5 premières saisons, j'ai fait l'Holocauste, j'ai fait la Shoah, j'ai fait... quelles sont les bêtes sacrées que je n'ai pas encore faites? Et comment est-ce que je peux trouver un moyen d'en rire? Donc, je pense qu'il est effectivement temps, mais ce n'est pas un reproche. Hein. Pas toutes les séries ont un potentiel inhérent de durer 20 ans. Mmh. Il y a des séries dont l'ADN fait en quelque sorte de sorte que sa vie naturelle est de 2, 3, 4 ans. Je crois qu'il y a beaucoup de séries. Tiens, ce serait quelque chose dont on pourrait parler à un autre épisode. Il y a un site web qui s'appelle Jump the Shark. Est-ce que tu as entendu parler?
Oui, bien sûr.
Alors, on pourrait peut-être faire est-ce qu'il y a des séries qui ont vécu trop longtemps, qui ont vécu au-delà de ce que leur ADN permettait, qui sont rentrés dans quelque sorte donc, dans des espèces de routinisation qui en faisaient des trucs complètement chiants alors qu'au départ, elles étaient formidables. Je pense que oui. Et j'espère qu'avec cette dernière saison qui réunira les quatre larrons de Seinfeld, avec tous les personnages de Curb Your Enthusiasm, Larry David aura l'intelligence de comprendre qu'il faut vraiment terminer.
À suivre la semaine prochaine.